Vous êtes sur RTL.
RTL.
12h30, 13h30. Le chat.
C'est un chat.
S'invite dans le journal inattendu.
Une grosse tête qui vient ici à la radio donner des réponses et qui donne sa langue au chat dans des albums.
Le journal inattendu de Philippe Gueluc, hey, avec Christelle Robière sur RTL.
Bonjour madame.
Bonjour monsieur.
Bonjour Christelle.
Le chat déambule, le plus belge des chats, débonnaire et irrespectueux, s'offre les Champs-Élysées. Le chat déambule, c'est le nom de l'exposition qui a commencé hier sur la plus belle avenue du monde. Le félin vous propose une balade en 20 sculptures monumentales en bronze. Alors il est comme d'habitude ce félin un peu poète, un peu philosophe, un peu crétin aussi, mais en format XXL. Et comme nous sommes confinés en plein air en ce moment, prenons une bouffée de surréalisme belge. Philippe Gueluc, dessinateur, animateur de télé, de radio, sociétaire des grosses têtes, peintre et aussi sculpteur, et plus que jamais un artiste complet à l'humour insolent et bienveillant. Merci de passer une heure avec nous pour ce journal inattendu. D'ailleurs, l'inattendu, c'est quand même un peu votre marque de fabrique. Vous connaissez l'émission, Philippe. Vous avez une minute pour faire votre autoportrait, crayon levé, puisqu'on est à la radio.
Top, c'est parti.
C'est parti.
Je m'appelle Philippe Gueluc, j'ai 66 ans et pas beaucoup de cheveux. Quand j'étais tout petit, il paraît que je prétendais être un chat. Et visiblement, ça a laissé des traces. Je suis amoureux d'une femme merveilleuse depuis 44 ans. Elle, heureusement, aussi de moi. Elle m'a donné deux merveilleux enfants qui eux-mêmes ont pondu quatre merveilleux petits-enfants. En 1983, j'ai eu un fils hors mariage, le chat, qui a aujourd'hui 38 ans. J'ai pratiqué plusieurs métiers, dessinateur, comédien au théâtre, acteur de téléfilms masqués, animateur et chroniqueur radio et télé, écrivain, peintre et sculpteur. Je ne cesse de m'émerveiller du talent des artistes, sans limite temporelle, depuis Lascaux jusqu'à Soulages, depuis Mozart jusqu'à Brassens, de Confucius à Frédéric Dard. Je traverse la vie avec gourmandise et curiosité, et la furieuse envie de la rendre belle à autrui. Oserais-je conclure cette courte biographie en citant le chat ?
Oui.
Le bonheur appartient à celui qui en donne aux autres.
Ah bah c'est déjà ça. Et je crois que vous en donnez beaucoup en ce moment sur les Champs-Élysées. On va y venir.
Oui, mais juste, moi, je voudrais savoir, j'ai fait combien de temps ?
Ah, je sais pas.
Vous n'avez pas chronométré ?
Non.
Ah oui, parce que j'avais tellement peur de
ça
dépasser.
Ça vous a stressé pour rien.
Dépasser c'est le temps dommage. Qui m'était imparti, j'aurais détesté ça.
Allez, dans l'actualité de ce samedi 27 mars, on vaccine à tour de bras les 70-75 ans sans comorbidité. Depuis ce matin, nous irons à Toulouse dans un vaccinodrome. Près de 3 millions de doses de vaccins sont attendues la semaine prochaine. C'est toujours l'embouteillage sur le canal de Suez, bloqué depuis mardi par un porte-conteneur géant qui s'est mis en travers. Son propriétaire japonais espère un déblocage dès ce soir, mais ce n'est pas si simple. L'heure d'été, l'heure d'hiver, si vous n'y comprenez rien, sachez que ça va durer. L'Europe n'arrive pas à se mettre d'accord sur une heure unique. La nuit prochaine, à 2h du matin, il sera donc 3h. Et puis, nous reviendrons sur la défaite du 15 de France, battue 27-23 par l'Écosse hier soir à la suite d'une bourde en fin de rencontre. La météo, bonjour Valérie Quintin.
Bonjour.
C'est plutôt une belle journée de printemps.
Alors ça commence quand même à se gâter sur la moitié nord, c'était prévu. Je me suis dit que les nuages arriveraient vers 15-16 heures, bah, c'est raté, ils sont déjà là. Ils arrivent progressivement, il ne va pas y avoir de grosses instabilités, simplement quelques petites averses qui vont circuler principalement entre les Hauts-de-France et l'Alsace. Ce sera donc de plus en plus nuageux au nord de la Loire cet après-midi, au sud tout va bien. Temps très ensoleillé, un petit peu de grisaille quand même sur les Pyrénées et en Corse. Et tout cela avec des températures un petit peu limites encore pour aujourd'hui. 11 degrés attendus à Lille, 12 à Reims, 13 à Paris, 14 à Nantes et à Lyon, 15 degrés à Toulouse et 20 degrés à Toulon.
30 millions de Français vaccinés à la fin du mois de juin. La ministre déléguée à l'industrie Agnès Pannier-Runacher a réaffirmé cet objectif ce matin. La France attend la livraison de près de 3 millions de doses la semaine prochaine. C'est d'autant plus important que la vaccination s'adresse à partir d'aujourd'hui aux 70-75 ans sans comorbidité. Patrick Hisson, vous êtes pour RTL dans le vaccinodrome à Toulouse, situé près du stadium et qui vient d'ouvrir.
Oui, et dès 8h ce matin, une longue file d'attente s'est constituée bien avant l'ouverture à 9h. Près de 200 bénévoles et pompiers ont pris en charge le public, avec d'abord l'accueil, puis cette étape juste avant la vaccination.
Bonjour madame, alors voilà, je suis l'infirmière qui va prendre votre température avant la vaccination. On va la prendre dans l'oreille, voilà.
J'étais pas d'accord au début, puis après avec le temps je me suis faite.
Et là, mais qu'est-ce là... qui vous a fait changer d'avis?
Beaucoup de choses, parce que je vois plus mes petits-enfants, enfin ma vie quoi. D'autrefois, et je la veux.
Et la grande nouveauté ce matin était l'ouverture au public dès 70 ans. Le professeur Vincent Boune est le patron du SAMU à Toulouse.
C'est des personnes qui sont toujours à risque des formes graves de Covid et puis qui étaient un petit peu frustrées de ne pas pouvoir être vaccinées jusqu'à présent. On a effectivement des personnes plus jeunes en moyenne que ce qu'on a eu jusqu'à présent sur les centres de vaccination. Et par contre, on a cette même envie de se faire vacciner. Là, la population a très envie. On sent qu'il y a une grosse impatience parce que je crois que le message est passé. La vaccination, c'est ce qui va nous sortir de la crise.
Au total, dans ce vaccin où 12 boxes ont été ouverts, ce sont 3800 personnes qui recevront ce week-end une première dose du vaccin Pfizer.
Patrick Hisson à Toulouse, aujourd'hui 56% des plus de 75 ans ont été vaccinés. Au dernier comptage, 7,5 millions de Français ont reçu une première dose. Quant au vaccin Pfizer-BioNTech, il va être un peu plus facile à manipuler. L'Agence européenne des médicaments autorise son stockage à des températures un peu moins élevées, entre moins 25 et moins 15 degrés. Depuis ce matin, l'Aube, le Rhône et la Nièvre font l'objet de nouvelles restrictions face à l'épidémie. Le gouvernement promet d'intensifier les contrôles dans les gares, les aéroports, les péages pour faire respecter le slogan du moment, dedans avec les miens, dehors en citoyen. Vous avez entendu parler de ce slogan ?
Ah ben non, je l'apprends à l'instant.
C'est
en
le dernier slogan, donc Jean Castex et l'équipe du gouvernement qui a trouvé ce slogan en début de semaine.
Mais je trouve qu'il a
dedans avec les miens, dehors en citoyen, ça vous inspire ?
Mais oui, bien sûr. Surtout quand on est l'auteur d'une exposition en extérieur, on se dit mais le gouvernement promotionne mon exposition. On était très inquiets il y a quelques jours quand on a attendu les nouvelles restrictions, les nouvelles mesures. On se dit est-ce qu'ils vont tout fermer, les frontières, est-ce que l'armée française va nous bloquer à la frontière en disant halte, on veut pas de ça chez nous. On ne savait pas, mais on est passé et finalement voilà. On en parlera tout à l'heure, mais l'exposition en plein air, c'est assez idéal en ce moment.
Oui, c'est un peu ce qu'il y a de mieux.
Et puis c'est la seule.
Oui, c'est la seule. On va y venir aussi. 4 jours maintenant que le canal de Suez est bloqué par ce gigantesque porte-conteneur coincé en travers à quelques kilomètres de Suez. 220 000 tonnes, il est aussi grand que 4 terrains de foot. Ça suscite d'énormes bouchons. Plus de 200 navires sont bloqués aux deux extrémités et dans la zone d'attente. Le propriétaire japonais de ce géant des mers espère un déblocage dès ce soir. Ça s'annonce titanesque quand même, Sébastien Rouxel.
Ah, c'est le moins que l'on puisse dire, Christelle. Imaginez tout le travail qu'il faudrait pour dégager la tour Eiffel couché en travers de ce canal. Et bien là, c'est encore plus compliqué car l'Ever Given est plus long, 400 mètres et beaucoup plus lourd. Sa proue est encastrée dans l'une des rives sablonneuses. Alors pour le renflouer, pas le choix. Il faut creuser le sol, retirer toutes les couches de sédiments. Les pelleteuses tournent à plein régime avec la marée haute. Cela pourrait suffire à dégager rapidement le porte-conteneur. Il ne prend pas l'eau et pourrait donc fonctionner normalement dès cette nuit selon son propriétaire. La société en charge du sauvetage mise plutôt sur le début de semaine prochaine. Ça, c'est pour le scénario optimiste. Ouais. Si l'opération échoue, il faudra alléger le navire, enlever un à un des centaines de conteneurs à l'aide d'une grue. Autant dire que cela prendrait du temps. Et du temps, le commerce international n'en a pas forcément. Chaque jour, l'Ever Given bloque l'équivalent de 10 milliards d'euros de marchandises.
Sébastien Rouxel. En Birmanie, au moins 14 personnes ont été tuées ce matin, ce samedi, à l'occasion de la journée des forces armées. C'est un gigantesque défilé militaire dans la capitale. La répression contre les manifestants pro-démocratie ne faiblit pas. On fait une pause dans un instant, on passe à l'heure d'été avec notre invité Philippe Gueluc.
Le journal inattendu sur RTL.
Avec Philippe Gueluc et Christelle Rebière.
La nuit prochaine à 2h, il sera 3h. On passe à l'heure d'été, vous avez l'habitude. Une heure de sommeil en moins, une heure de jour en plus. Pourtant, il y a 3 ans, l'Union européenne avait décidé de mettre un terme au changement d'heure qui dure depuis 1980. Alors qu'est-ce qui bloque ? Yann Bouchery a posé la question ce matin à Karima Deli, députée Europe Écologie Les Verts au Parlement européen.
C'est la question des États membres. Sur le principe, ne sont pas contre la fin du changement d'heure, mais il fallait qu'ils statuent entre l'heure d'hiver et l'heure d'été. Et là, ça se complique, puisque chaque État membre, aujourd'hui, ne sait pas si on reste à l'heure d'été ou l'heure d'hiver. Et donc, on ne peut pas se permettre d'avoir un patchwork européen comme ça de fuseau horaire. Donc, pour l'instant, les négociations sont arrêtées. Et ensuite, on a les services juridiques du Conseil qui nous disent, pour l'instant, il n'y a pas d'étude d'impact qui montre justement les effets plus négatifs que positifs de la fin du changement d'heure. Donc les discussions sont à l'arrêt aujourd'hui.
Donc au mieux, c'est en 2000 quoi ?
C'est 2023-2024, si les États membres arrivent à se mettre d'accord. Voilà, tout est une question de volonté des États membres.
Karim Adeli, interrogé par Yann Boucherie. Philippe Geluc, est-ce que vous y retrouvez, vous, heure d'été, heure d'hiver ?
Moi, je proposerais à l'Europe de choisir la demi-heure. parce que ça mettrait tout le monde d'accord, un peu plus, un peu moins. Non, mais j'ai eu pendant des années un vrai problème face à... on a une heure de plus, mais alors on recule ou on avance les aiguilles. Enfin, je ne m'y retrouvais jamais.
Et
le chat, m'a aidé à trouver le moyen mnémotechnique. Là, on approche du mois d'avril.
Oui.
D'accord ? En automne, c'est octobre. Octobre recule les aiguilles.
Ah.
Avril avance les aiguilles.
Ah, pas mal.
Et quand on retient ça, on l'oublie jamais.
Bah, bravo, merci pour le conseil. On va essayer de s'en souvenir. Le 15 de France fait décidément rêver, même quand il perd. Près de 7 700 000 téléspectateurs ont suivi France-Écosse hier soir. Les Bleus menaient à la mi-temps et avaient encore un petit espoir de remporter le tournoi Destination. Ils ont finalement été battus en toute fin de match, 27-23. Un manque de lucidité, une bourde. Signé Brice Dulin, l'ancien entraîneur du RC Toulon, Daniel Herrero, en fait le récit.
Les Français récupèrent la balle, c'est fini. On a récupéré la balle de façon un peu miraculeuse. Il suffit de taper en touche, de plonger en touche, d'envoyer le ballon à quelqu'un dans la tribune. Et les Français sont victorieux, c'est la 81e minute. Et là, la bévue. On ne sait pas pourquoi, Dulin est pris d'une espèce de stimulation étrange, d'une bouffée de narcissisme équivoque. Il se met à avoir envisagé à la 80e minute, alors qu'il est victorieux, de traverser le terrain tout seul. La bévue. Et il part, il lance une contre-attaque, il se fait choper, il garde le ballon au sol, pénalité pour les Écossais. Ils ont 3 minutes pour nous harceler et venir nous claver à la dernière seconde. Les Français s'inclinent sur une histoire rocambolesque, impensable à ce haut niveau-là. Dulin, l'offensif, Dulin le glorifie la semaine dernière pour son talent, sa générosité et son esprit d'initiative. Dulin va commettre la bêtise grave, on appellera l'histoire pitoyable de la bévue de Dulin à la dernière seconde qui prive les Français, malgré tout, d'une victoire qui donnait à ce tournoi une belle allure.
Daniel Herrero, micro RTL de Jean-Michel Rascol. Dans le top 14, 7 matchs au programme cet après-midi. Ça commence à 14h45 avec le Stade français qui reçoit Clermont. À 17h15, La Rochelle doit gagner à Bordeaux-Bègles pour espérer coller au Stade toulousain, largement en tête du classement. Toulouse qui reçoit Montpellier à 17h45. Le sport ce soir sur RTL, ce sera On refait le match à 18h30 avec Christian Olivier. Puis RTL Foot avec Eric Silvestro et Xavier Domergue à la veille de Kazakhstan-France dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022.
Le journal inattendu de Philippe Geluck
avec Christelle Robière sur RTL.
Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit. Il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées.
Il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées, même des chats de 2 mètres de haut, rien que ça. Philippe Geluc, vous avez inauguré hier cette exposition, 20 sculptures monumentales de votre félin ventru et espiègle, baptisé le chat déambule, en plein reconfinement qui ne dit pas son nom à Paris, on se croirait dans une fantaisie belge. Franchement, vous avez bien compris que pour l'instant, seules les personnes qui habitent à moins de 10 km des Champs-Élysées vont pouvoir venir se promener et admirer vos chats en bronze. C'est pas un peu surréaliste cette situation ?
Mais totalement. Vous savez que l'exposition était prévue l'année dernière, on devait l'inaugurer le 9 avril, et finalement ça a été annulé pour cause de pandémie mondiale et de confinement, bien sûr. Alors, moi, je me suis jamais plaint à l'époque parce que je me dis, il y a des milliards de gens qui se retrouvent dans l'incertitude, l'angoisse, la maladie, la dèche, etc. Donc, je vais pas venir, moi, avec mon petit ego et dire que je suis contrarié, évidemment. Donc, on a attendu et on s'est dit, l'année prochaine, tout ira bien.
Oui,
il y aura des vaccins.
Là, vous avez eu peur de vous retrouver exactement dans la même situation.
Exactement.
Finalement.
Et puis, à un moment, j'ai dit à mon équipe, nous le faisons, quoi qu'il en coûte. J'avais entendu la formule et elle m'avait frappé.
La formule d'Emmanuel Macron.
Et donc on l'a fait et je pense qu'on a bien fait. Parce que, certes, ce sont les gens qui habitent dans un rayon de 10 km qui viennent, mais ils sont déjà des dizaines de milliers à être venus visiter l'exposition et me disent tous « Merci, vous apportez de la joie et on en a tellement besoin et on est en manque de culture, d'exposition, etc. » Voilà.
Donc, c'est vrai, moi j'y suis allée hier après-midi, ouais. Franchement, et j'ai vu les gens sourire derrière les masques. Je les ai vus se parler entre eux de manière assez spontanée. C'était très émouvant. Est-ce que vous avez l'impression que c'est un peu votre Graal, là ? Le chat sur les champs.
C'est vrai que ça c'est un peu irréel. Je vous avoue que je me suis pincé 2-3 fois quand l'exposition a été installée et que j'ai vu ça. Parce que Champs-Élysées, c'est tellement emblématique. C'est aussi de me dire que la dernière exposition de ce genre a eu lieu il y a 29 ans et c'était Botero qui avait exposé. Alors, notre point commun, c'est qu'il fait des grosses et moi, ouais, je fais en gros. Donc, les Champs-Élysées aiment les gros. Et puis, il y a Joe Dassin, il y a le général de Gaulle, il y a eu les Bleus. Hier, était présent à l'inauguration François Hollande, ouais, et il n'a pas plu. Parce que souvenons-nous qu'il avait failli remonter les Champs-Élysées à la nage le jour de son investiture, le pauvre, tellement il avait douché. Et puis là, il faisait beau temps.
Il y avait François Hollande, il y avait Brigitte Macron aussi.
Elle est venue un peu plus tard, parce qu'elle ne voulait pas être confrontée à autant de monde rassemblé. Nous avons pourtant pris garde, évidemment, de nous mettre par petits groupes séparés, de garder des distances. Et puis, elle nous a fait l'amitié de venir promener Nemo, que j'ai bien surveillé du coin de l'œil.
Le chien
Qui lève pas la patte sur un des chats, parce que...
C'était tente.
Je veux dire, respect tout de même. Et puis, elle a été adorable, enthousiaste, emballée. Elle m'a dit qu'elle reviendrait souvent voir, parce qu'elle trouve l'exposition magnifique.
Ça fait 38 ans, Philippe Geluck, que le chat est un peu votre double et aussi le nôtre. Pourquoi avoir voulu changer de dimension?
En préparant le catalogue éponyme, Le chat déambule, j'ai fait un entretien avec Jean-Claude Loiseau et puis j'ai préparé ce catalogue pendant des mois et j'ai plongé dans mes souvenirs et dans des archives. Et je me suis rendu compte en fait que je sculptais depuis très longtemps. Mmh. J'ai associé des dessins et des objets en 3D, des dessins et des sculptures que je faisais. J'ai représenté un peintre assassiné en train de peindre une toile représentant un type avec un flingue face à lui. Et etc, etc. Et j'avais un peu oublié ça. Et quand le chat est né en 83, dès 86, j'ai fait le premier buste le représentant. Et puis je n'ai jamais cessé. Première grande sculpture en 2003 pour l'exposition à l'École des Beaux-Arts. Mmh. Première sculpture en bronze en 2008 pour une galerie d'art. Et ça a suscité tellement d'enthousiasme que ça m'a donné envie de continuer ce que j'ai fait. Et j'adore sculpter.
Alors, c'est une balade poétique que vous nous proposez. Je pense à cette statue où le chat joue de la flûte traversière. Mais ici, l'instrument est une branche d'arbre sur laquelle est posé un oiseau qui chante à tue-tête. Et l'œuvre s'intitule « Flûte à bec ». Ça symbolise l'esprit de cette déambulation ?
Oui, c'est une des plus poétiques. Et c'est vrai qu'elle tire une petite larme d'émotion, pas de tristesse, d'émotion. Et on se dit comme c'est joli. Et des gens m'ont même dit, en n'étant pas sans doute très observateur, mais c'est pas de la flûte à bec qui joue, c'est de la flûte traversière. J'ai dit non, regardez le quoi, il chante avec quoi l'oiseau. Et voilà l'association. Il y en a une autre dans laquelle une souris aide le chat à monter la jambe vers le haut parce que le chat est
en tutu
et il danse. Et dans ces deux cas-là, c'est l'illustration de la morale d'une fable de La Fontaine. On a toujours besoin d'un plus petit que soi.
On fait une pause avant de continuer cette balade avec vous, Philippe, et évoquer l'humour dans l'art aussi, on va y venir.
Le journal inattendu de Philippe Geluck
avec Christelle Rebière sur RTL.
Le chat déambule sur les Champs-Élysées en 20 statues de bronze. Philippe Geluck, avec cette exposition inédite, nous voilà au point de rencontre entre l'art et l'humour. On va y venir, mais d'abord, qu'est-ce qui vous amuse? Qu'est-ce qui vous fait rire, vous?
Ah, mais mes amis, mais parfois mes propres blagues, quand j'en invente une excellente, la bande des grosses têtes, les dessinateurs mythiques, passé, présent et avenir, mon ami Lefred Touron, qui publie dans le Canard Enchaîné, enfin tout, ils sont innombrables, on n'aurait pas assez d'une heure pour que je vous les cite tous, mais je suis un grand rieur, j'aime les propositions des autres. J'éprouve parfois ce que j'appelle de la jalousie positive. C'est-à-dire que je suis pas jaloux du tout. J'ai jamais connu ce sentiment de ma vie. Mais quand un confrère trouve une idée que j'aurais aimé avoir, je me dis, ah le salaud, qu'est-ce que j'aurais aimé trouver ça. Et là, je suis pas jaloux, je suis juste admiratif.
En préparant cette émission, je vous ai demandé quels extraits de films vous aimeriez partager avec nous. Et vous m'avez cité OSS 117, Rio ne répond plus.
Vous savez, Hubert, la vie n'est pas toujours facile pour les gens ici. C'est d'ailleurs le propre des dictatures.
Une dictature, comme vous y allez. Vous êtes bien sympathique, Dolores, mais épargnez-moi vos analyses politiques. Savez-vous seulement ce que c'est qu'une dictature? Une dictature, c'est quand les gens sont communistes. Déjà, ils ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. C'est ça, une dictature, Dolores.
D'accord. Et comment vous appelez un pays qui a comme président un militaire avec les pleins pouvoirs, une police secrète, une seule chaîne de télévision et dont toute l'information est contrôlée par l'État?
J'appelle ça la France, mademoiselle. Et pas n'importe laquelle. La France du général de Gaulle.
Qu'est-ce qui vous amuse le plus, qu'on se moque de la France ou le côté surréaliste de Jean Dujardin?
Bah c'est son interprétation fabuleuse, c'est le côté tellement con du personnage. J'aime tellement ça, c'est des gens tellement intelligents qui jouent les cons. Quand vous parlez à un, quand vous faites passer vous-même pour un imbécile et que vous êtes face à un con et qu'il vous méprise, quelle volupté aussi, parce vous voyez.
Alors, il y a quelque chose qui vous intéresse particulièrement et dont on ne parle jamais, mais vraiment jamais, c'est l'humour dans l'art. Et vous avez découvert qu'en Égypte, les scribes faisaient déjà des blagues.
Oui, qu'en gravant les hiéroglyphes, il travestissait des proverbes qui étaient des proverbes anciens et qui jouaient sur les mots, enfin sur les signes, puisque c'était pas des mots. Et ça m'a complètement fasciné. Alors j'ai continué à gratter. Sur le paléolithique, j'ai pas trouvé grand-chose parce qu'à Lascaux, ils ont pas vraiment fait des blagues sur les fresques. Mais qui sait ? Puis j'ai découvert, évidemment, au Moyen-Âge, on sait bien que les gargouilles étaient aussi des moments où les sculpteurs se lâchaient un peu parce que c'était inatteignable par le commun des mortels, etc. Voilà, sur des bâtiments religieux. Et puis à la Renaissance, on trouve des dessins que Léonard de Vinci allait faire dans les tavernes où il croquait des types qui avaient des gueules incroyables. On est trouvé dans des...
Mais vous voulez dire que ça ressemblait déjà à de la caricature, ça ?
Ah mais totalement, ouais. Et puis, évidemment, il y a eu l'apogée de la caricature au moment où s'est approchée la Révolution française et on s'est mis à critiquer le pouvoir. Et ça a toujours été ça, le dessin d'humour. C'est la défense des petits, des faibles, face à un pouvoir oppressant. Et on en a bien vu la résolution dramatique ces dernières années. Et puis, j'ai découvert aussi quelque chose d'hallucinant, c'est que les grands mouvements de la peinture du XXe siècle... la peinture, l'abstraction. On croit que c'est Malevitch avec carré blanc sur fond blanc.
Oui.
Eh ben non, c'est Alphonse Allais et Paul Bilot avec des monochromes humoristiques 30 ans plus tôt.
Ah, génial.
Et puis, on pense que l'impressionnisme, ben on cite Monet et compagnie, mais non, c'est le caricaturiste comme Daumier.
Oui.
Qui faisait des peintures début du 19e et dont les grands spécialistes disent qu'il a sans doute inventé l'impressionnisme. Et donc les grands mouvements picturaux sont l'œuvre de Rigolo.
Et mais moi, on ne leur rend pas hommage, hein, franchement.
Ah non, on ne le dit jamais. Et moi j'aimerais tellement être reconnu un jour, c'est peut-être le seul truc qui va me manquer au bout de ma vie, c'est que j'aimerais tellement être reconnu comme le chef de file de l'art Rigolo.
C'est vrai ?
Non.
D'où vient l'humour belge dont vous êtes l'un des représentants et dans quelle période de l'histoire de l'art le situez-vous, l'humour belge ?
Oh, je pense que les Belges ont toujours été un peu barrés depuis les anciens Belges, depuis l'époque des Gaulois. Je pense que Jérôme Bosch est le premier peintre surréaliste de l'histoire de la peinture. Quand on regarde, j'étais à Vienne il y a 2 ans et j'ai passé 2 heures devant ces tableaux pour regarder les détails. Et chaque détail, c'est un dessin d'humour. Et puis, il y a Magritte. Ah, et puis, Magritte. Alors, d'où vient l'humour belge ? Je pense de la confrontation de deux cultures. Celle du Nord, celle du Sud. On parle flamand au Nord, on parle français au Sud. C'est germanique et puis latin. Que ça vient de la taille du pays, qui est minuscule. Et on se dit, tout le monde se fout de notre gueule, donc faisons-le en premier, rions de nous.
Mais c'est parce que vous avez de l'autodérision que nous, les Français, on n'a pas ?
Mais j'ai l'impression que dans la tradition, l'humour français a souvent été développé aux dépens des autres. On se moquait des minorités, on se moquait des provinciaux.
On s'est beaucoup moqué des Belges aussi.
Et on s'est beaucoup moqué des Belges. Jusqu'au début des années 90, où on débarquait tout à coup, Poulvord, Morane, Amélie Nothomb, Arnaud, moi-même, Axel Red, etc. Et où les gens qui riaient de nous se sont dit « Oula, mais il se passe quelque chose là-bas ». Et depuis, c'est par trains entiers que les artistes belges débarquent, enfin avant le confinement.
Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des lignes rouges dans l'humour ? On assassine un enseignant qui a montré des caricatures de Charlie Hebdo. Une de vos statues représente d'ailleurs un chat en Saint-Sébastien, le corps criblé de crayons.
Voilà, c'est l'hommage que je voulais rendre à mes amis et confrères assassinés de façon monstrueuse. Comment peut-on tuer pour un dessin ? Comment ? Il y a tellement d'autres manières de réagir. On fait un autre dessin, on discute, on s'engueule, mais jamais on ne lève la main et jamais on ne tue. Enfin, quelle folie. Et je voulais rendre par cette sculpture Duchat en Saint-Sébastien, en martyr, au nom de tous les dessinateurs, journalistes, photographes, intellectuels, martyrisés à travers le monde. Je voulais leur rendre hommage. Et j'ai déposé sur les crayons, vous l'avez vu, des petits oiseaux qui représentent l'avenir, l'espoir. Et j'en parlais avec des mômes, mais je dis, c'est vous les gars qui allez faire un monde meilleur pour nous tous.
Il va être 13h sur RTL, une pause, le rappel des titres et puis vous nous donnerez la météo, Philippe. Le chat n'aime pas l'eau, ça tombe bien, il va être au sec pendant quelques jours. Philippe Geluck est l'invité du journal Inattendu. Aujourd'hui, il est 13h sur RTL.
Le journal inattendu de Philippe Geluck.
13h, les titres de l'actualité.
Christelle Robière.
19 départements en restrictions renforcées pour essayer de contenir l'épidémie. Le Rhône, l'Aube et la Nièvre rejoignent les 16 de la semaine dernière. Vigilance maximale dans les établissements scolaires. Dans ces départements, un seul cas de Covid dans une classe entraînera désormais sa fermeture. Le top départ de la vaccination pour les 70-75 ans sans comorbidité, ça concerne 3,5 millions de Français supplémentaires. La tension à l'hôpital reste extrêmement forte avec un taux d'occupation des lits en réanimation de 95% au niveau national. L'Allemagne a placé la France comme zone à haut risque. Il y aura des restrictions à partir de demain à la frontière franco-allemande et non pas lundi. Yannick Holland, vous êtes à Strasbourg pour RTL.
Oui, désormais, si vous voulez aller en Allemagne, il vous faut un test négatif, PCR ou antigénique, de moins de 48 heures. Et à l'arrivée, vous devez observer une quarantaine de 10 jours avant de pouvoir sortir. Autre nouveauté, pour tout séjour de plus de 24 heures en Allemagne, il faut désormais s'enregistrer sur Internet au préalable. Ces règles entreront en vigueur dimanche. Cela va surtout changer les habitudes des travailleurs frontaliers alsaciens puisqu'ils devront présenter des tests Covid négatifs deux fois par semaine pour continuer à travailler en Allemagne. Il n'y aura pas de contrôle systématique à la frontière pour ne pas provoquer de bouchons, mais les contrôles aléatoires seront nombreux une fois passé le Rhin. Les transports en commun transfrontaliers continueront de fonctionner. Ces règles sont donc un peu plus souples que ce qui se passe en Moselle, considéré comme un département plus dangereux à cause de la circulation des variants.
Yannick Holland, ne laissons pas le sida reprendre du terrain. C'est l'appel que lance ce matin Emmanuel Macron. Il souligne que le Covid relègue d'autres pathologies dans l'ombre et le silence. Le chef de l'État invite à la mobilisation pour le SIDAction. Vous pouvez aider en envoyant le mot don par SMS au 92 110 ou sur sidaction.org. Vous connaissez la tradition, Philippe Geluck. C'est l'invité qui nous donne la météo. Alors à vous d'y mettre votre patte.
Sur un texte de Valérie Quintin.
Oui.
Une météo assez bien ensoleillée et plutôt douce au sud de la Loire cet après-midi avec juste quelques petites pluies sur les Pyrénées. Il fera beau sur les Champs-Élysées à Paris. La moitié nord va en revanche accueillir des nuages de plus en plus nombreux au fil des heures. Les averses devraient toutefois se limiter à l'extrême nord. À vous, Christelle Robière.
Vous ne donnez pas les températures, vous ?
Oh oui, je vous donne les températures. 36,8 sous le bras et entre 10 et 20... Entre 10 et 20 degrés en général, il fera 13 degrés à Paris et 12 à Bruxelles, que nous saluons.
Alors, vous caricaturez assez peu l'actualité, Philippe, mais je sais que vous la suivez avec attention. Et depuis le début de la pandémie, est-ce que vous arrivez à vous extraire de ce jour sans fin, d'autant que la Belgique est reconfinée depuis ce matin?
Bah non, je suis pas différent des autres. Alors, j'ai heureusement une activité qui me permet de continuer mon métier, puisque je dessine chez moi, dans mon atelier. J'ai mis à profit le confinement de l'année dernière pour dessiner, pour peindre, pour faire du rangement. Donc moi, j'étais très privilégié. Mais je suis évidemment en connexion avec tous les autres. J'ai beaucoup dessiné pendant cette période pour les soignants, pour les infirmières. Je leur ai dit mon soutien. J'ai ouvert ma gueule pour dire elles ne sont pas assez payées. J'ai envoyé des dessins à des malades. J'ai soutenu avec mon amie Kadjanine la cause désespérée des femmes victimes de violences intraconjugales. J'ai essayé de mettre du temps libre à profit pour penser aux autres et pour défendre les plus faibles.
Alors, vous êtes le rédacteur en chef de ce journal Inattendu et vous avez voulu parler de la vaccination. Expliquez-nous ce qui vous agace en ce moment.
Alors, évidemment, tous, on se dit que ça ne va pas assez vite, que principalement en France, on annonce des tirs, on dit dans 3 mois, il y a 18 millions de personnes qui seront vaccinées, dans 6 mois, tout le monde sera vacciné, et au jour le jour, ça n'avance pas aussi vite. Mm-hmm. Et je me dis, mais au fond, il y a peut-être un problème économique là-dedans. Et je ne comprends pas pourquoi ces vaccins, ces formules de vaccins ne sont pas offertes au domaine public. Je pense que certaines lois pourraient contraindre les laboratoires, et je repense à l'inventeur du vaccin contre la polio, qui a offert son vaccin à tous. On lui a dit, mais vous déposez pas le brevet. Il dit non, ce vaccin appartient à l'humanité.
Eh bien, écoutez bien, parce qu'on a justement posé la question à l'une de nos spécialistes santé, Agathe Landais, qui nous éclaire sur le sujet, Agathe.
Alors, pour bien comprendre, il faut commencer par la base. Un vaccin, comme toute invention, est protégé par un brevet, une propriété intellectuelle qui garantit que le laboratoire bénéficie pendant plusieurs années d'un monopole sur ce vaccin qu'il a créé. Aujourd'hui, plusieurs politiques et plusieurs experts estiment qu'il faudrait lever ces brevets, que la recette des vaccins Covid soit en quelque sorte rendue publique. Il existe un moyen légal pour faire cela, c'est ce qu'on appelle la licence d'office, mais c'est une fausse bonne idée, selon l'économiste de la santé Frédéric Bizard.
On n'a pas trouvé une meilleure incitation à l'innovation qu'un espoir de gain financier. Donc, quelle va être l'incitation des laboratoires dans les prochaines années à développer des technologies sur lesquelles elles ne pourront pas faire de gains significatif.
D'autant que les laboratoires vont encore devoir développer de nouveaux vaccins Covid, notamment pour lutter contre les variants. La recherche coûte très cher et pas sûr que les labos s'y aventurent s'ils savent d'ores et déjà qu'ils ne gagneront pas d'argent sur ces vaccins.
D'autant, Agathe, que ce ne sont pas ces brevets qui ralentissent la production des vaccins.
Et non, car c'est plutôt un problème d'ordre industriel. D'abord parce qu'on manque de certaines matières premières pour produire ces vaccins. Par exemple, certains enzymes indispensables pour produire les vaccins ARN messagers. Ils étaient très peu produits il y a un an, quelques microgrammes seulement, quand aujourd'hui il nous en faut des kilos. D'autant qu'en plus, les usines pour produire les vaccins sont limitées. Éric Bazeillac dirige les affaires économiques et internationales du LEM, la fédération qui regroupe les entreprises pharmaceutiques.
Il faut là encore 7 à 10 ans pour monter une usine capable de produire des vaccins. La solution, c'est celle des partenariats entre les industriels avec des usines qui sont capables de produire des vaccins partout dans le monde.
Et en fait, c'est exactement ça qui se passe aujourd'hui. AstraZeneca a passé un accord avec le Serum Institute en Inde, par exemple, pour produire 1 milliard de doses. Chez nous, Sanofi va commencer cet été à produire des vaccins Pfizer pour sortir 100 millions de doses d'ici la fin de l'année. Plus de 200 accords ont été signés entre laboratoires ou avec des sous-traitants pour booster la production.
Vous êtes convaincu ou pas, Philippe ?
Alors, je suis très intéressé par les explications, par les témoignages. Je me permettrai néanmoins d'appeler un ami qui est un grand médecin pour lui demander son avis. Il s'appelle Guy Bernard Cadière, le professeur Cadière. Et si jamais vous aviez son numéro de téléphone, ce serait formidable.
Ce serait bien. On essaie de l'appeler tout de suite.
Oui.
Hein ? Bonjour Guy Bernard Cadière.
Bonjour.
Vous êtes en studio avec nous. Vous êtes chef du service de chirurgie digestive à l'hôpital Saint-Pierre de Bruxelles. Vous connaissez très bien tous les deux.
On est amis dans la vie et je suis juste, je vais le dire tout de suite, comme ça on sait à qui on parle. Il est pour moi un des héros de l'humanité. Parce qu'on en parlera tout à l'heure, j'espère.
Il
est associé au professeur Mukwege, l'homme qui répare les femmes, et Guibert répare les femmes aussi, au Kivu. Mais on va d'abord parler du vaccin.
Alors,
mais
c'est un grand bonheur. Alors, qu'est-ce que vous en dites, vous, des vaccins ? Oui, dans l'absolu, il faudrait pouvoir les rendre libres de droits, mais on a bien compris que ça posait un problème économique. Et que si les laboratoires ne peuvent pas gagner de l'argent, ils ne peuvent pas ensuite continuer la recherche.
D'accord, mais en fait, dès que le Covid est apparu, l'année passée, en janvier, les chercheurs du monde entier, les Russes, les Américains, les Chinois, ont rassemblé toutes leurs données et ont permis de faire très vite toute la recherche sur le vaccin. Ce qu'on a demandé aux firmes, c'est juste de produire. Donc, ce qui a coûté cher, c'est d'abord trouver le mécanisme pour faire ces vaccins, pas pour le produire. Et en plus, les firmes ont reçu des subsides pour pouvoir produire, et les chercheurs ont aussi reçu des subsides extrêmement importants. Et en plus, le risque que prenaient les firmes pharmaceutiques était très pauvre, puisque si jamais il y avait des effets secondaires, c'était les gouvernements qui allaient prendre ça en charge. Mmh. Donc je ne suis pas d'accord avec l'argumentation.
Avec
que
l'analyse
si
que vous avez entendue.
Avec cette argumentation, en tout cas, de dire que s'il n'y a pas un incitatif, eh bien les firmes ne vont pas faire cette recherche.
Qu'est-ce que vous pensez en général, en tant que médecin, de la gestion européenne des vaccins ? AstraZeneca, par exemple, ne va livrer que 70 millions de doses, alors que l'Union en avait commandé 180 millions. L'Europe a été naïve, à votre avis ?
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est les firmes, les big pharma, qui font le calendrier de notre vaccination. J'estime qu'ils ont organisé la pénurie. Je ne suis pas non plus d'accord avec ce qui a été dit. Ça fait longtemps que ces firmes auraient pu, en libérant le brevet, permettre à d'autres firmes de produire ce vaccin. Alors, l'attitude de l'Union européenne, mais je pense que c'est surtout la faiblesse d'État, de l'État par rapport à des multinationales. Et je pense que l'arrogance d'AstraZeneca, de Pfizer, par rapport aux institutions européennes est bien illustratif du fait que maintenant, les multinationales peuvent se permettre ce qu'elles veulent. Et ce qui est ennuyant, parce que ce sont des prédateurs.
Guy Bernard Cadière, si Philippe Geluck vous a invité, c'est aussi, justement, il le disait, parce que vous réparez les femmes. On va y venir.
Le journal inattendu de Philippe Geluck.
Avec Christelle Rebière sur RTL.
Philippe Geluck et son invité, donc le docteur belge Guy Bernard Cadière, qui est en studio avec nous. Vous avez été un pionnier de la laparoscopie. Expliquez-nous.
Mais la laparoscopie, c'est en fait ne pas ouvrir un ventre pour l'opérer. Donc, au lieu de faire de larges incisions pour ouvrir la cavité abdominale, vous introduisez une petite caméra et des instruments effilés par des petites incisions de 5 mm et vous surveillez l'intervention que vous réalisez à l'intérieur du ventre grâce à une télévision.
Donc c'est ce qu'on appelle l'endoscopie aussi.
Oui,
c'est ça, l'endoscopie. C'est la même chose.
Alors la laparoscopie, si vous voulez, c'est ouvrir un ventre. Laparos, c'est un ventre.
C'est voilà. Du grec, ça.
Et je confirme qu'il est habile parce que, en dehors de notre amitié, il m'a opéré d'une hernie inguinale gauche. C'est bien ça, docteur ?
Ah, c'était gauche ?
Oui, et on. Ah, salaud. Et on ne voit rien. C'est juste parfait. Je garde ce ventre d'Adonis que l'on m'envie.
Alors, c'est parce que vous êtes un des maîtres de la laparoscopie que vous avez fait une rencontre qui a un peu changé votre vie, celle du docteur Mukwege, surnommé l'homme qui reconstruit les femmes. Ce gynécologue congolais a été sacré prix Nobel de la paix en 2018 pour cette chirurgie réparatrice des organes génitaux de toutes ces femmes qui ont été violées, parfois massacrées. Et il vous a enrôlé. Alors, ces viols dans la région du Kivu, c'est une arme de guerre et on estime que plusieurs centaines de milliers de femmes ont été violées là-bas depuis 25 ans. Je vous propose d'écouter le docteur Mukwege. Il racontait en mars 2019 sur RTL comment il avait eu le déclic.
Lorsque vous soignez une victime et que vous l'encouragez, les femmes ont une résilience, une capacité de résilience inimaginable. Mais lorsqu'elle revient pour la deuxième fois, elle a été encore violée. Quel est le discours que vous tenez pour encourager cette femme, puisqu'elle a le sentiment, en fait, que ça devient une seconde façon de vivre, et c'est inacceptable, ce type de traumatisme. Ça, pour moi, c'était insupportable. Je ne pouvais plus rester au bloc opératoire. Pour moi, il était plus qu'urgent d'en parler au monde, aux décideurs, pour que ce type de viol et l'usage de corps des femmes comme champ de bataille puisse cesser.
Le corps des femmes comme champ de bataille. C'était le docteur Mukwege, invité d'Elisabeth Martichoux sur RTL.
Pardon, c'est terrible, le corps des femmes et des enfants. Parce que, ouais.
Docteur Cadière, aujourd'hui, vous opérez à quatre mains, donc expliquez-nous comment ça se passe.
Donc, quand Denis Mukwege est venu chercher un prix en Belgique, il a voulu visiter notre service et il a vu qu'on faisait donc cette chirurgie sans ouvrir. Et pour lui, quand il y a des dommages, par exemple lorsqu'on a tiré une balle dans l'anus ou bien que lorsqu'on a mis une machette dans le vagin et que les lésions sont profondes, il a plus difficile à réparer ces lésions. Parce que lui passe par le vagin, entre les jambes des femmes. Et donc, il s'est dit, tiens, que par cette technique, on pourrait, par le haut, rejoindre ce périnée, rejoindre cette région difficile d'accès. Et donc, maintenant, en fait, effectivement, on répare le vagin, on répare la vessie, on répare le rectum à quatre mains et... Moi, je suis par le haut, si vous voulez. Ma voix d'abord est par le haut, autour du nombril, et lui par la voix intravaginale. On se rend compte, et c'est comme ça qu'on arrive à reconstruire les dégâts qui ont été faits sur l'appareil génital féminin.
C'est absolument fascinant, Philippe.
Ben, c'est fascinant, c'est bouleversant.
Et c'est terrifiant, pardon, mais c'est une situation absolument terrifiante. Vous y allez souvent au sud Kivu, docteur Kadière?
Oui, oui, on
vous
organise...
Vous opérez là-bas, hein?
Oui, oui, on organise 3-4 missions par an.
Ils sont menacés de mort. Denis Mukwege n'est plus sorti de l'hôpital depuis un an. C'est pour ça que je disais que ces hommes sont des héros de l'humanité et que je suis si fier d'être leur ami.
Menacés de mort par qui? Expliquez-nous la situation, docteur Kadir. C'est les milices armées hein, dans ce coin-là de l'Afrique, l'Afrique des Grands Lacs.
Voilà, donc si vous voulez, dans l'est du Congo, c'est une région très riche en minerais, en coltan, nécessaire pour nos GSM. Et loin d'être une manne pour les habitants, c'est au contraire une malédiction parce que cette région est donc sujet de convoitise des multinationales, convoitise d'élus locaux, convoitise des pays africains avoisinants. Et donc tous ces gens-là n'ont absolument aucun intérêt à ce que la région soit organisée. Donc ils maintiennent un chaos. Et donc il y a des bandes armées qui sèment la terreur là où il y a les minerais. Mmh. Et donc ils utilisent comme arme de guerre le viol avec extrême violence.
Pourquoi s'acharne-t-il sur ces femmes et sur ces enfants?
Mais parce que c'est utilisé comme arme de guerre et ça permet de si vous voulez soit de rendre la population esclave, soit que cette population fuit. Et à ce moment-là, on peut commencer l'extraction des minéraux.
Mmh. Et ces femmes aujourd'hui, le docteur Mukwege, vous-même vous les opérez, mais ensuite, qu'est-ce qu'elles deviennent? Vous arrivez à les aider, on va dire, à se reconstruire aussi psychologiquement, socialement?
Oui, en fait, il y a quatre axes, c'est-à-dire qu'on répare d'abord évidemment chirurgicalement, puis en plus on s'en occupe sur le plan psychologique, on s'occupe aussi de la réinsertion socio-économique avec des petits marchés locaux et des microcrédits, et enfin on donne une aide judiciaire. On essaie d'abord de persuader ces femmes qu'elles ne sont pas coupables d'avoir été violées, mais qu'elles sont victimes et qu'elles ont le droit à la justice. Et donc, il y a une aide judiciaire pour ça. Le problème, c'est que dans cette région du monde, c'est l'impunité totale.
C'est qu'il n'y a pas de justice. En fait, ils font exactement ce qu'ils veulent.
Ben voilà, il n'y a pas de loi pour défendre les plus faibles et il n'y a pas d'appareil d'État pour faire respecter ces lois. Mmh. Et donc...
Et ça dure depuis 25 ans, quand même, dans une espèce de quasi-indifférence générale.
Oui, ça fait 25 ans maintenant.
Philippe Geluck.
Bah moi, j'ai la gorge nouée chaque fois que je l'entends parler de ses missions, de son métier, de cette tellement noble chose qu'ils accomplissent tous les deux. Et j'essaye de temps en temps de les soutenir. J'ai fait passer un message à des politiques qui ont accordé une subvention qui avait disparu tout à coup en Belgique et qui est revenue. Et puis Guy Bernard, ça va plus vite, organise des galas aussi pour récolter des fonds, pour offrir du matériel, pour offrir une salle d'opération.
Grâce à Philippe, on a reçu beaucoup d'argent pour permettre les missions et pour permettre la construction de salles d'opération. Mais vous savez, cette région dont on ne parle jamais, elle nous intéresse hein, parce que c'est l'avenir de nos enfants. La barbarie qui règne là-bas, c'est exactement comme ça que vont vivre nos enfants et nos petits-enfants si on ne réagit pas. Il faut aller voir là-bas ce que c'est que l'absence d'une civilisation, l'absence du droit, l'absence de justice, l'absence de paix. Donc être dans une période, dans une région d'insécurité absolue, allez là-bas et vous verrez ce que risque de devenir notre région, la France, la Belgique, si on ne réagit pas.
Merci d'être venu porter ce message dans le journal inattendu, docteur Kadir. Philippe Geluck, votre chat s'expose sur les Champs-Élysées en plein air. On y revient dans un instant.
Revenons à un peu de légèreté avec quelques tonnes de bronze.
Le journal inattendu de Philippe Geluck
avec Christelle Rebière sur RTL.
Philippe Geluck qui s'offre les Champs-Élysées avec 20 sculptures monumentales en bronze de son chat. C'est une balade poétique et joyeuse qui nous fait du bien, comme un air de liberté. Si on parlait de vous un peu, Philippe, en préparant cette émission, vous, intime, je veux dire, vous avez choisi de nous faire écouter ceci.
Et laissons venir la cinquième saison. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? De retour en septembre, on ira boire quelques verres. Mais les jours se ressemblent, qu'est-ce qu'on va faire d'extraordinaire?
C'est Ours qui interprète la cinquième saison. Et Ours, c'est...
Et Ours, c'est le fils de Souchon. Et il a écrit cette chanson avec quelqu'un que j'aime beaucoup aussi, qui s'appelle Antoine Chance,
et qui est mon fils. De Philippe Geluck, Antoine Chance. C'est pour ça que vous avez voulu faire ce petit clin d'œil à votre fils ?
Aussi, mais aussi parce que Ours est quelqu'un de magnifique, de merveilleux. Et puis il y en a une autre qui va arriver là et que je ne vous raconte pas.
Bon, vous parliez de votre fils à l'instant. C'est sans doute difficile d'être fils d'eux. Est-ce que vous pensez que votre ombre peut être pesante pour lui ?
J'ai essayé pendant toute ma vie, pendant toute leur enfance, de ne pas leur faire peser ça sur les épaules. Par exemple, chez nous à la maison, il n'y a aucune image de moi ou du chat. Les photos de vacances, mais on ne peut pas savoir qu'on est chez moi, tu confirmes, Guibert. Et pour ne pas leur imposer tout le temps ce papa connu, etc., je sais que c'est compliqué parfois.
On a un invité surprise pour vous, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous le connaissez depuis longtemps, Philippe Geluck ?
Bah, de nom, bien évidemment. Personnellement, non, c'est assez frais.
Merci Jean-Louis Fournier d'être avec nous.
Jean-Louis Fournier.
Alors présentez-nous Jean-Louis Fournier.
Ben, on se connaît, qu'est-ce que tu racontes ? On a bu un café ensemble, Place de la République, il y a 3-4 ans. Moi j'ai une admiration sans borne pour
Jean-Louis
cet écrivain.
Jean-Louis Fournier, écrivain, humoriste, réalisateur à la télé, notamment de La Minute Nécessaire de Monsieur Cyclopède avec Pierre Desproges.
Et voilà, et rien que pour ça, je lui baise les pieds.
Vous avez une question pour Philippe, Jean-Louis Fournier ?
Oui, je voulais savoir si le chat était un vrai gentil ou un faux gentil.
Bah, il est comme toi, en fait. Il se fait passer pour une teigne, mais il a un cœur très tendre. Il aime bien balancer des vacheries, moi aussi. Mais on sait que c'est pour de rire. Et qu'il y a toujours de la tendresse, de l'empathie, de l'humanité, de la sensibilité derrière tout ça. Mais j'aime jouer au méchant. Ma femme me dit parfois, quand je fais de l'humour noir, elle me dit « mais tu es un monstre ».
Mais vous en faites beaucoup de l'humour noir à la maison ?
Oui.
Oui.
Oui. Je ne veux pas vous donner des exemples, c'est ma vie privée, mais c'est vrai qu'avec des amis de confiance, on peut aller très très loin dans les blagues au 16e degré.
Jean-Louis Fournier, qu'est-ce qui vous relie tous les deux au fond ?
Ben, beaucoup de choses, parce que quand je lis énormément de textes qu'il fait, il y a quelques idées que j'ai eues aussi. Ben, c'est ce mélange un petit peu de faire rire et faire pleurer. C'est-à-dire que je pense que la vie est remplie de joie et de tristesse et tout ça, et ne regarder que les joies, c'est un peu ridicule, ne regarder que les tristesses, c'est ridicule. C'est-à-dire, c'est faire un élégant mélange de tout ça et essayer de transformer ce qui est triste en choses amusantes. Et ça, je pense que si vous voulez des humoristes, l'humour, c'est un antalgique. L'humour, c'est se servir du rire pour essayer de soigner nos malheurs. Et
Nous avons sans doute un autre point commun, c'est cette envie, cette volonté de ciseler les phrases et de réduire les mots pour ne garder que ceux qui importent vraiment. Et Fournier est un immense écrivain, mais ses livres sont pas très longs non plus. Il y a parfois beaucoup de blancs. Il y a des pages comme ça parce que ses textes sont brefs. Mais ces blancs sont, comme chez les silences de Mozart, les pages blanches sont encore du Fournier.
Jean-Louis Fournier, est-ce que c'est la bienveillance de Philippe qui vous plaît aussi ?
Ah non, s'il y avait seulement de la bienveillance, ça m'agacerait. Non, je pense que le vinaigre et l'acidité sont très importants. Et, j'aime bien du miel, mais c'est encore mieux quand il y a du poivre dedans. C'est le mélange des deux qui est formidable, parce que j'ai travaillé aussi beaucoup avec des proches. Des proches étaient exactement ce même genre de type, c'est-à-dire qu'il affichait une espèce de provocation, une méchanceté quand c'était un écorché. Vous savez, ceux qui se méfient de leur sensibilité, c'est ceux qui en ont.
Et vous avez l'air d'en avoir. Merci beaucoup Jean-Louis Fournier. Merci Philippe. Merci pour tout. C'était un vrai moment de plaisir. On retrouve vos chats donc sur les Champs-Élysées, entre le rond-point des Champs et la Concorde, ouais, jusqu'au mois de juin, et après ils vont partir en promenade.
Voilà, jusqu'au 9 juin à Paris, ensuite ils partent 4 mois à Bordeaux, puis à Caen, et puis ensuite Marseille, Milan, Genève.
Oui, il y a une dizaine de villes. Hein,
oui, ensuite. Oui, et peut-être d'autres vont s'ajouter, parce que j'ai déjà eu des presque demandes de gens qui passaient par là et qui disent « mais il faut venir à New York, absolument
!» Le chat n'a pas fini de voyager. Merci pour tout. Merci.
Merci, Christelle.
Il va être 13h30 sur RTL dans un instant confidentiel, Jean-Alphonse Richard, sur Jean-Luc Delarue.
RTL Matin, les pépites d'Anthony Martin.
Tous les jours à 7h25 dans RTL Matin avec Yves Calvi, je vous propose une pépite musicale sortie de ma discothèque. Alain Souchon chante Dalida, Vanessa Paradis France Gall, Johnny Alain Bachung. Chaque matin, une rareté, un pas de côté, parfois une nouveauté. On se retrouve chaque matin à 7h25 pour notre balade au cœur du patrimoine musical et bien sûr à tout moment en replay sur la nouvelle appli RTL.